Pause littéraire sur RCN. Les livres, les auteurs, avec Jean-Jacques Bitton.
Bonjour, notre invitée Isabelle Bédoué, elle est psychothérapeute. Elle est l'auteur d'un livre qui s'intitule « Des imposteurs, Landru, Petiot, Roman et autres », un livre qui est paru aux éditions Imago. Isabelle Bédoué, bonjour.
Bonjour.
Alors justement, parlez-nous un petit peu de ce livre « Des imposteurs ». Pourquoi avoir choisi ce titre exactement pour présenter finalement des assassins, des gens assez peu recommandables, des gens que nous trouvons effrayants? Ces gens-là, leurs assassinats, leur méchanceté reposait essentiellement sur de l'imposture?
Oui, ce sont sept cas d'imposture très différents. On y retrouve cinq meurtriers, en effet, vous avez raison, un gourou et un travesti, et dans la chronologie, on part à peu près de la guerre 14-18 pour venir jusqu'à nos jours. C'est un sujet, l'imposture, qui est encore très contemporain d'ailleurs, et puis qui est très très intéressant.
Mais
moi je me suis, oui, pardon,
Moi je me suis, oui, vous disiez.
Oui, moi je me suis intéressée à l'imposture de par ma carrière professionnelle. Enfin, j'ai reçu l'imposture dans mon cabinet et c'est ce qui m'a emmenée sur les chemins de l'imposture pour y réfléchir et en comprendre les fondements.
Mais comment un psychothérapeute, une psychothérapeute peut être confrontée à l'imposture dans son cabinet?
C'est vrai, c'est une drôle de question. Comment on peut arriver à recevoir un imposteur? Je crois que l'imposteur ne se présente pas de cette manière-là. L'imposteur vient pour un symptôme ou sous l'injonction de son conjoint ou de sa conjointe et puis vient travailler quelque chose et c'est au fil du temps qu'on peut se rendre compte, de à qui on a affaire.
Oui, mais c'est valable dans un cabinet de psychothérapie, mais c'est valable aussi dans la vie de tous les jours, c'est valable aussi dans la vie professionnelle. Dans la vie professionnelle, il arrive quelquefois qu'on rencontre des imposteurs, des gens qui n'ont aucun talent, aucune disposition, et qui arrivent en intriguant à monter à des postes relativement plus ou moins importants. Personnellement, j'ai été confronté à des situations comme ça.
Oui, tout à fait, vous avez raison. On peut rencontrer l'imposture au coin de la rue. Ça peut être le mari ou la femme de votre voisin, voisine. Ça peut être votre chef de service, comme ça peut être le médecin du coin. Tout à fait.
Alors, justement, parlons-en de ces imposteurs. Alors, on va s'en tenir justement aux personnes que vous citez dans le titre. Alors, justement, comment Landru devient un imposteur?
Landru est passé par plusieurs phases. Celui que j'appelle le marchand de rêves, ce tueur en série, séducteur de femmes, avant d'être justement tueur en série, il a réalisé une invention, il a voulu motoriser la bicyclette et la transformer en tricycle. Donc il a déposé un brevet pour ça en 1899 et puis une addition de brevets en 1900. Landru voulait être riche. C'est un homme qui disait que quand un homme ne réussit pas dans la vie, c'est un misérable. Et donc, tous les moyens sont bons pour échapper au misérabilisme pour Landru. Donc, son invention, dans son invention, on retrouve son imposture. C'est-à-dire qu'on retrouve à la fois son imposture et aussi sa logique singulière. Moi, je trouve que c'est un vrai cadeau. Alors, son invention de motoriser la bicyclette, elle est quand même connue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de nombreuses personnes savent qu'il est passé par là avant de devenir un escroc et un tueur, comme je vous le disais. Il est passé par là. Excusez-moi, j'ai perdu le fil.
Donc Landru, finalement, on est arrivé à tuer à force d'imposture.
C'est-à-dire, j'en sais trop rien. Ce que je sais, c'est que il est passé par une invention. Je vous disais qu'on retrouve son imposture et on retrouve sa logique singulière. Parce que dans son invention, en fait, si on regarde les plans que je publie hein, d'ailleurs dans le livre, on voit que c'est quelqu'un de très rigoureux, qui travaille avec beaucoup de minutie. Et d'ailleurs, on est assez bluffé par ces schémas de la bicyclette motorisée. Mais quand on y regarde de plus près, et c'est ce qui n'a d'ailleurs jamais été fait, c'est que j'ai jamais vu d'expertise jusqu'à maintenant de cette bicyclette. Alors moi, j'ai trouvé quelqu'un qui s'appelle Jonathan Bis, qui est expert en véhicules anciens, qui a accepté, on a regardé les schémas ensemble, on les a un peu passés au peigne fin, et on a découvert que cette bicyclette ne pourrait jamais fonctionner. Alors, il y a quatre éléments que je ne vais pas vous donner.
Oui, mais vous les expliquez justement, dans votre livre.
Il y a quatre éléments qui font que cette bicyclette ne pourra jamais fonctionner. Donc déjà, ça, c'est son imposture. D'une certaine manière. Et puis, sa logique personnelle à Landru, c'est qu'il dit qu'il faut donner une forme propre au cadre, donc on parle bien de la bicyclette, hein, en fonction de sa destination. Eh bien, cette logique, bien à lui, est valable pour tout. Elle est autant valable pour la bicyclette que dans la vie. C'est-à-dire que pour Landru, on fait ce qu'on veut de la règle, du cadre, hein, je parle du cadre de la loi, quand il s'agit de servir sa cause. Et peu importe si on passe par le crime, c'est pas un problème.
Ça marche, on va dire, de la même façon pour un certain Marcel Petiot, puisque justement il se fait passer pour un sauveur de juifs, alors qu'il en assassine 27.
Bah oui, c'est un petit peu la même chose. D'ailleurs, je l'ai pas dit dans le livre, mais je fais un peu un parallèle entre Petiot et Landru. Je me suis demandé si Petiot n'avait pas copié Landru. Je suis pas allée explorer cette piste que je laisse peut-être à d'autres, mais c'est un peu effectivement la même chose. D'ailleurs, Petiot, c'est aussi un inventeur. Enfin, Petiot, pour lui, la vie, c'est un grand échiquier, quoi. Il fait croire à une partie équitable, mais en réalité, il est le seul à connaître les règles du jeu qu'il contrôle de bout en bout. Alors, il fait croire effectivement à des juifs et à des escrocs qu'il va les faire passer en zone libre ou à l'étranger. Et en fait, le voyage s'arrête dans son hôtel particulier 22 rue Le Sueur et il assassine donc 27 personnes déclarées. Enfin, déclarées en tous les cas, il est reconnu coupable pour 27 personnes. Lui, il s'est vanté d'en avoir tué bien plus.
Moi, vous savez, en lisant vos portraits dans ce livre des imposteurs aux éditions Imago, je le rappelle, j'en suis venu à me poser une question. Je me suis dit finalement, est-ce que les tueurs, bon, tuent bien sûr à force d'imposture parce qu'ils n'arrivent plus à gérer leur vie, mais au-delà de tout ça, est-ce qu'ils ne tuent pas quelque part pour exister finalement? Parce que éliminer l'autre, au niveau psychique, au niveau de l'inconscient, c'est le meilleur moyen d'exister de façon absolue.
Alors, je ne sais pas si c'est le crime qui les fait exister. En tous les cas, je pense que...
Non, ils ont ce besoin d'exister, justement.
L'imposture les fait exister. Mais sept cas d'imposture, comme je vous disais, très différents, ce sont des soldats de l'imposture. Ce sont des pros du faire vrai. C'est-à-dire, ils sont prisonniers, esclaves de l'imposture pour vivre. Je précise d'ailleurs de suite que c'est différent du syndrome de l'imposteur dont on entend parler fréquemment. Hein, c'est pas la même chose. Ici, on est dans l'imposture pathologique indispensable pour exister. C'est pas le crime qui est indispensable pour exister, c'est l'imposture. Enfin, c'est l'invention. C'est, voilà. Et d'ailleurs, dans mon ouvrage, il n'y a pas que des criminels, il y a aussi Paul Grabe qui est un travesti, et puis il y a Gilbert Bourdin, le gourou du Mandarome, d'ailleurs, qui s'est, je précise, autoproclamé messie cosmoplanétaire, et qui a emmené dans son délire mégalomaniaque et paranoïaque des milliers d'adeptes. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas tous meurtriers, ils ont tous un parcours singulier, et on est bien du côté de l'imposture pathologique.
Alors vous parlez d'un troisième meurtrier, alors particulièrement dangereux et effrayant, celui-là, c'est un nommé Roman, qui a bâti toute sa vie professionnelle sur le mensonge, et pour terminer, il a assassiné plusieurs membres de sa famille.
C'est ça, Jean-Claude Roman, donc c'est une affaire qui s'est passée dans les années 90. Donc Jean-Claude Roman, c'est le faux médecin de l'OMS dont la double vie effectivement l'a amené à commettre l'irréparable, hein, et en particulier un quintuple meurtre au sein de sa famille. Il a tué son épouse Florence, ses deux enfants ainsi que ses parents. Donc Jean-Claude Roman a fait croire pendant 18 années qu'il était médecin à toute sa famille. D'ailleurs, je l'ai appelé le médecin malgré lui. Et Jean-Claude Roman, à mon sens, était habité par la peur de décevoir depuis toujours ses parents et son entourage, et il s'est inventé une vie. Et confronté à une épreuve, d'ailleurs, quelle qu'elle soit dans l'existence, ben, il ment. Il s'invente des maladies, il sauve les apparences de cette manière-là, et c'est une solution de survie pour exister. En fait, le beau-frère de Jean-Claude Roman, qui s'appelle Emmanuel Crollet, a dit un jour une phrase que j'ai relevée, que j'ai trouvée, mais très pertinente et digne d'une phrase d'analyste. Il a dit « Roman est une coquille vide qui se remplit du regard des autres ». Et donc son imposture à Roman lui a permis de construire un château de cartes qui lui a permis de tenir lui dans l'existence. C'est-à-dire, il le dit d'ailleurs lui-même, Roman, je reprends ses termes, il dit « Le bonheur était construit sur du sable, il y a eu un grain de sable et ça a ouvert la faille ». Voilà. Et quand on est pris, rajoute-t-il, donc ça ce sont des phrases pardon, qui ont été extraites d'une expertise psychiatrique, et il dit « Quand on est pris dans l'engrenage de ne pas décevoir, le premier mensonge en appelle un autre, et c'est toute ma vie ».
Et finalement, au moment où nous parlons, le Roman a purgé sa peine, il est libre.
Oui, il est sorti il y a quelques années, alors là je ne vais pas pouvoir vous redire, je pense que c'était...
Peu importe, mais je veux dire, actuellement, ouais. Il est libre. Personnellement, je ne sais pas du tout ce qu'il devient, mais peut-être oui. vous le savez.
Non, pas plus que les autres. Il est allé, il a eu, effectivement, il est sorti de prison, et il est allé dans un monastère du côté de Tours, je crois. Voilà.
Alors, dans le cas de l'André Petiot, c'est différent parce que ces deux assassins ont été guillotinés. Ils ont absolument pas eu peur au moment où on les a mis à mort. Hein. Visiblement, ils redoutaient pas la mort. C'est peut-être pour ça qu'ils ont pu tuer autant de personnes.
Bah, en tous les cas, on est dans le registre de la psychose. Ça veut dire on est dans le registre où il y a quand même ce qu'on appelle un émoussement des affects. Hein, le rapport à l'autre n'est pas du tout la même dans la névrose que dans la psychose. D'ailleurs, Landru disait il n'y a pas de crime, parce que pour qu'il y ait un crime, il aurait fallu qu'il y ait un autre en face de soi.
Oui, finalement, pour Landru, l'autre n'existe pas.
Voilà, mais pour Petiot, l'autre n'existe pas non plus.
Finalement,
ils ont ces imposteurs. Alors moi, ce que je dis quand même, ce que je précise, c'est que mes 7 cas d'imposture sont des cas, donc comme je vous disais tout à l'heure, différents, mais en aucun cas on peut faire de généralité, parce que chaque individu est unique et chaque cas est particulier.
Alors,
avec des points communs, bien entendu, hein, mais l'imposteur, il y a un tableau un peu clinique de l'imposteur, on peut retrouver des points communs. Mais chaque cas est bien particulier quand même, même si on rencontre des ressemblances.
Finalement, Isabelle Bédoué, donc dans les cas que vous traitez, je veux dire les assassins, on voit quand même qu'il y a une dimension pathologique assez importante dans leur personnalité.
Dans ceux-là, oui, tout à fait. Ouais, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait, c'était la différence avec le syndrome de l'imposteur qui n'est pas pathologique.
Voilà, d'accord, mais ceci dit, tout crime n'est pas nécessairement pathologique non plus.
Oui, tout à fait, tout crime n'est pas forcément pathologique.
Isabelle Bédoué, nous arrivons au terme de cet entretien. Alors je rappelle que vous êtes psychothérapeute et vous êtes l'auteur d'un livre qui s'intitule « Des imposteurs, Landru, Petiot, Roman et les autres » et c'est un livre qui est paru aux éditions Imago. On peut écouter cet entretien sur notre site rcnradio.info. Isabelle Bédoué, je vous remercie.
Pause littéraire sur RCN. Les livres, les auteurs, avec Jean-Jacques Bitton.